on en parle.
Tension.
Incompréhension.
Addiction.
Évolution.
Explication. On en parle.
L'émission qui décrypte les phénomènes de société au sein de la jeunesse.
Tous les jeudis de 11h à 11h45.
Sur LFM. Et il est tout juste 11h sur LFM Radio, vous écoutez Manon, heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode d'On en parle. Cela fait maintenant un peu plus d'un an et demi que nous sommes sortis des confinements, et même si le Covid est toujours présent, on a appris à vivre avec et à surtout continuer nos vies. Et pourtant, pour certaines personnes, les confinements ont un impact notoire sur leur santé, puisque Santé publique France a fait différentes études dès les premiers confinements pour connaître les comportements et les évolutions en termes d'addiction. On peut noter deux tendances différentes. Pour une grande majorité de Français, la consommation a drastiquement diminué. Mais il n'en reste pas moins qu'un consommateur sur 10 d'alcool, par exemple, déclare avoir augmenté sa consommation. Aujourd'hui, on va particulièrement se demander quel impact a eu le Covid sur certains jeunes et comment ils en subissent encore les conséquences plus d'un an après. Pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Auclin, psychologue clinicienne au centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de Trappes. C'est une habituée dont on en parle, puisqu'on l'a reçue dans plusieurs émissions par le passé sur la question de l'alcool, des jeux vidéo et des addictions aux jeux d'argent. Aujourd'hui, avec elle, on va vraiment venir comprendre l'impact du Covid sur les comportements addictifs. Alors si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à rester à l'écoute sur LFM.
LFM 95.5.
Eh bien, déjà, bonjour Mathilde Auclin, j'espère que vous allez bien.
Bonjour, merci de m'avoir invitée à nouveau, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui.
Vous devenez la professionnelle en addictologie sur LFM Radio, presque maintenant. Est-ce que vous pourriez déjà nous réexpliquer ce que c'est l'addictologie pour ceux qui ne connaissent pas ?
Oui, bien sûr. Alors, l'addictologie, en fait, c'est la science qui étudie les addictions. Donc les mécanismes, quelles addictions déjà existent, qu'est-ce qu'on peut caractériser comme étant une addiction ? Comment ça fonctionne, comment ça se développe en fait chez les personnes, et c'est aussi toute la réflexion autour des prises en charge globales qui peuvent exister. Et donc l'addictologie, ça va s'illustrer donc par des recherches scientifiques, donc en biologie, en neurosciences, en psychologie clinique et psychopathologie, en sociologie également. Et donc c'est plusieurs professionnels, chercheurs ou praticiens qui vont participer à toute cette science, que ce soit du côté de la recherche ou du côté des soins. Donc vous m'avez présenté, moi je suis psychologue, mais on travaille également avec des médecins, des assistantes sociales, des infirmiers, des éducateurs, des secrétaires. Donc soit l'addictologie peut se traiter par des structures associatives, voilà, soit ça peut se traiter chez des médecins professionnels, ou ne serait-ce qu'aller voir son médecin traitant pour commencer à parler de sa consommation de tabac ou d'alcool, c'est déjà quelque chose. Et sinon, on peut aller à l'hôpital, dans les centres hospitaliers publics ou privés. Et dans les centres hospitaliers notamment, il y a ce qu'on appelle des XAPA. Voilà, donc comme là où je travaille, et donc les XAPA, ce sont des centres ambulatoires, parce que soit on peut se faire hospitaliser et rester dans une structure de soins, ce qu'on appelait avant la désintox, etc., sur plusieurs semaines, soit on fait comme chez nous dans les XAPA, donc on vient à un rendez-vous et on repart chez soi après, et on va à un autre rendez-vous plus tard avec une autre personne et on rentre chez soi après. Et les XAPA, il faut savoir que ce sont des structures qui sont publiques, qui sont gratuites, qui sont ouvertes à partir de l'adolescence, donc nous par exemple on ouvre à partir de 12 ans, et il y en a au moins une par département, sachant que pour la petite histoire, dans les Yvelines on est quand même 5, moi je travaille à Trappes comme vous l'avez dit, et il y a également donc des collègues sur Versailles et sur Rambouillet, mais également sur Mantes-la-Jolie et sur Saint-Germain-en-Laye.
Super, et ben on va utiliser votre savoir notamment en addictologie un petit peu plus pour comprendre tous ces sujets et comprendre les sujets de l'addiction de manière générale. Alors vous connaissez bien, on en parle maintenant, et puisque c'est la quatrième fois que vous venez sur l'émission, vous savez qu'on commence toujours l'émission avec un petit micro-trottoir. Donc c'est un micro-trottoir que j'ai effectué auprès de quelques jeunes afin de connaître l'impact des confinements sur leur consommation d'alcool et de drogue. Donc on va s'écouter ça tout de suite et puis réagir dessus juste après. Du coup, est-ce que pendant le Covid, ta consommation d'alcool ou de drogue, elle a changé ?
Elle a drastiquement chuté.
Oui, évidemment, parce que avant Covid, bah forcément, bah en semaine, tu sors avec tes potes, tu vas au bar. Le week-end, tu sors avec tes potes, tu vas au bar. Pas que ça, mais bref, tu as des soirées, enfin tu vis, et ces moments, on va dire, en communauté, sont propices à la consommation d'alcool. Et tout à coup, tu te retrouves chez toi, en plein confinement, seul. Donc forcément, tu bois beaucoup moins. Bah, ayant très très peu consommé d'alcool durant la période du confinement Et du Covid, lorsqu'on a été déconfiné, qu'on est reparti au bar avec des potes ou qu'on avait des soirées et tout, on est moins tenté de beaucoup boire comme avant.
Est-ce que tu as des potes qui ont au contraire un peu plus bu qu'avant ?
Non, c'était pareil pour tout le monde, je pense. Hormis les apéros en ligne, tu sais, genre sur Messenger, à plusieurs, on buvait beaucoup moins.
Pendant le Covid, je consommais plus du tout d'alcool, plus de drogue du tout d'ailleurs. Et c'est vrai que tu te rends compte qu'en fait, tu consommes que quand t'es en extérieur en fait, que quand t'es au contact des gens.
Et est-ce que après le Covid, t'as plus consommé qu'avant, en revoyant les potes, en sortant, ou est-ce que c'est resté à peu près similaire ?
Non, j'ai recommencé à consommer. j'étais à, je sais pas moi, au moins une soirée par semaine, voire deux.
Plus qu'avant du coup.
Ouais. Et pendant le Covid, c'était zéro en fait.
Ouais. Et est-ce que pendant que tu étais chez toi, ça t'est déjà arrivé de penser, sans le faire même, parce que tu m'as dit que tu avais réduit, de dire tiens, je me boirais bien un truc ou je prendrais bien de la drogue parce que je m'ennuie ?
Alors sur l'alcool, non. Sur l'alcool, je consomme jamais tout seul. Même l'été, boire une bière tout seul, ça me vient pas à l'esprit en fait. Après, quand je fumais du cannabis, là par contre c'était tout seul, tous les soirs, même en journée, il n'y avait pas de...
C'était plus qu'avant du coup.
Ouais, ah bah oui, beaucoup plus.
Mais en fait, il faut dire que moi j'étais enceinte pendant le confinement, donc du coup, je connais des potes en tout cas qui se sont mis à fumer beaucoup plus avec Snap, ça s'est bien développé aussi sur les ventes sur Snap. Ventes de shit et de bœufs et tout, tu sais, t'envoyais des messages et... Et quelqu'un qui passait chez toi, ça se faisait super facilement en fait. Vu que tu ne pouvais pas te déplacer, c'était les gens qui se déplaçaient et qui t'apportaient ton truc, quoi.
Okay.
Donc il y en a eu pas mal, ça a pas mal augmenté là-dessus sur Snap pendant le confinement. Et alcool, non, pas plus qu'avant, pas moins qu'avant, quoi.
Peut-être du coup des gens de ton entourage qui buvaient plus qu'avant, t'en avais ?
Ouais, carrément. Ah ouais, j'en ai eu quelques-uns qui sont un peu abusés là, je pense. Et c'était dur de revenir à la vraie vie après. Entre les apéros Zoom et les apéros tout seul. J'en connais qui ont du mal à lâcher et qui ont toujours du mal à lâcher en fait. Ouais, je pense que ça a été un peu le déclic qu'il n'aurait pas fallu avoir en effet.
Est-ce que même si tu étais enceinte, le fait d'être toute seule, tu avais envie de consommer plus qu'avant ?
Oui, parce que tout le monde se faisait des apéros autour de moi. Et du coup, je pouvais pas, donc j'étais au soft. Mais oui, en effet, j'avais trop envie. C'était un peu dur, encore plus dur que je pense que ça l'aurait été normalement. Mais bon, j'ai résisté.
Mathilde Auclin, quelles sont vos réactions à l'écoute de ce micro-trottoir ?
Alors, je trouve qu'il y a des témoignages qui sont vraiment, vraiment très intéressants parce qu'ils reflètent toute la réalité variée des études que j'ai trouvées pour préparer un petit peu ce sujet. Je pense, donc si on les reprend un petit peu dans l'ordre, le premier jeune homme qui parle d'un arrêt vraiment drastique de ses consommations, et ça rejoint plusieurs études que j'ai trouvées, alors entre autres une qui est sortie en janvier 2021 du site addictionfrance.org, et puis sinon la dernière étude de l'OFDT, donc l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, où effectivement on pourrait, enfin ce qui apparaît, c'est que les gens qui ne consommaient pas forcément beaucoup en fait ont arrêté de consommer et s'en sont passés finalement assez facilement.
Ouais.
Parce que les gens ont fait un petit peu, enfin pour beaucoup, ont fait la part des choses entre ce qu'il dit, qui est très vrai, hein, finalement, l'extérieur, les sollicitations des gens, le fait d'avoir des lieux aussi pour consommer. Et beaucoup, beaucoup de gens, notamment des jeunes, font quand même très bien la part des choses entre une consommation de fête conviviale avec
sociale.
Des amis, même si elle est énorme cette consommation, et qu'il y a une sorte de barrière à pas franchir qui est de commencer à consommer tout seul. Voilà. Après, sur la consommation de drogue, c'est assez ambivalent parce que globalement, il y avait quand même beaucoup d'obstacles pendant les confinements à ne pas pouvoir consommer. Il y avait plus de bars, plus de restaurants, pas le droit de sortir, pas le droit de se déplacer. Et paradoxalement, les lieux de vente de tabac et d'alcool sont restés ouverts, hein, quand même les supermarchés, les débits de tabac. Et ce que la jeune femme dit à la fin, c'est vrai que les réseaux sociaux ont été un support hyper important de vente de drogue, alors de cannabis mais autres aussi,
plein d'autres choses différentes, effectivement.
Bah, les seules études, enfin en tout cas moi les études que j'ai lues, un produit qui a été assez impacté quand même à la baisse, ça a été la cocaïne, parce que du coup le trafic international, enfin la cocaïne étant beaucoup produite et importée de l'international, comme ça a été complètement coupé,
ça a stagné.
Ça a stagné, et puis les lieux de consommation de la cocaïne, qui sont beaucoup des milieux festifs, en fait étaient fermés aussi, donc il y avait assez peu de contexte qui favorise la consommation. Je dis pas que ceux qui ont consommé déjà chez eux n'ont pas continué à le faire, mais globalement en fait ça a beaucoup changé les modes et les habitudes de consommation, et la solitude et l'ennui, je pense que ça a été le facteur le plus favorisant, le plus important exactement, pour pousser à consommer chez ceux qui ont augmenté leur consommation. Globalement, les études elles montrent quand même que ceux qui pouvaient s'en passer, ils s'en sont passés, et ceux qui consommaient déjà de toute façon avant, soit ils ont consommé de la même façon mais en s'adaptant, en réduisant, en différant leur consommation, voilà, mais en tout cas ils ont continué de consommer.
Et justement, est-ce qu'il y a un profil type de jeunes, ou même souvent c'est des adultes aussi jusqu'à 50 ans, qui ont beaucoup plus consommé?
Pour le moment, en tout cas dans les études que moi j'ai trouvées, j'ai pas trouvé de données par rapport à ça. Je dirais pas qu'il y a un profil type en termes d'âge en tout cas, ou en termes de catégorie socio-professionnelle. On va quand même mettre l'accent, alors parmi les jeunes, il y a quand même les jeunes, on va dire, entre les jeunes adolescents entre 12 ans et 16 ans, pour la plupart ils étaient à la maison, chez les parents, enfin, en général à cet âge-là on habite encore chez ses parents.
Donc c'est un peu plus difficile de consommer effectivement et d'avoir
de consommer, de sortir, on va dire que c'est un milieu un petit peu plus protecteur et protégé, alors que je pense qu'une population qui a énormément souffert des confinements, de la crise sanitaire, et qui en souffre encore beaucoup aujourd'hui, ce sont les étudiants, qui eux étaient beaucoup plus dispatchés, pas forcément près de leur famille, avec
isolés complètement,
très isolés, extrêmement isolés, avec des... Il y a des gens qui sont quand même rentrés faire leur première année à la fac en étant en visio, dans un appartement, confinés, sans amis, du coup dans une ville qu'ils ne connaissaient pas forcément, avec des familles qui sont éloignées, qui n'avaient pas toujours les moyens de pouvoir les aider. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a, je crois, un étudiant sur deux ou sur trois qui a besoin d'un job étudiant. Je crois qu'encore le chiffre que là, ce que je donne, c'est très faible, mais qui a besoin d'un emploi pour subvenir à ses besoins. Et ça, ça a été complètement arrêté aussi avec la crise sanitaire. Donc c'est un groupe de personnes qui a énormément souffert globalement. Alors je sais pas si ça s'est vraiment répercuté sur la consommation addictive.
Ça coûte cher déjà ce genre de choses.
Exactement.
Souvent il y a la précarité qui se rajoute à ça.
C'est ça, et du coup ça amène à prioriser, à revoir un petit peu ses priorités aussi. Mais en tout cas, c'est un public qui a été très fragile et qui est toujours très fragile. Et globalement, tous les facteurs de risque, la crise sanitaire, elle a fait s'exacerber tous les facteurs de risque tout court qui peuvent amener à une addiction, c'est-à-dire l'isolement, l'ennui, la solitude, le fait de ne pas avoir de rythme ou d'avoir ces rythmes complètement décalés, la peur aussi, quelque part. Et du coup, l'émergence qu'on a pu voir quand même globalement dans beaucoup d'études en santé mentale sur la crise sanitaire chez les jeunes, la peur de l'avenir par rapport à l'emploi, la santé aussi, l'émergence de troubles anxieux, de troubles dépressifs, tout ça, ce sont des facteurs de risque globaux dans le développement d'une addiction, quel que soit le contexte, entre guillemets.
Alors justement, dans le micro-trottoir, on a pu entendre l'évocation de l'alcool ou du cannabis. Est-ce qu'il y a d'autres comportements d'addiction à noter qui se sont aggravés à cause des confinements?
Alors oui, effectivement, on parle beaucoup d'alcool, de tabac et de cannabis. Là, j'ai fait un petit topo là, il y a quelques instants sur la cocaïne, mais il ne faut pas oublier des addictions dont on ne parle jamais ou trop peu en tout cas, ce sont les jeux d'argent et la consommation de pornographie. Voilà, c'est des comportements qui ont énormément explosé en termes de consommation chez les jeunes, même dans la population en général, et ça on a tendance à le minimiser, il y a assez peu d'études là-dessus, enfin je peux vous en citer une en tout cas, qui est que 5% des joueurs de 2020, en fait en 2020, 5% des joueurs en fait ont commencé
Ok, donc en fait, avant il n'y avait pas ça, ils ont eu un attrait un petit peu pour les jeux.
Il y a eu un attrait en fait à ce moment-là, bah, de par l'ennui et de par le fait que si les produits étaient moins accessibles, le numérique il a été accessible en permanence.
Et à tout le monde.
Et à tout le monde. Et 13% de ces nouveaux joueurs, enfin en tout cas 13% des 18-24 ans sont ces nouveaux joueurs. Voilà. Et beaucoup de joueurs qui jouaient déjà en fait à des jeux d'argent ont continué à jouer normalement. Et en 2021, donc 300 000 adolescents de 15 à 17 ans ont joué au moins une fois à des jeux d'argent. Mmh. Et on estimerait qu'il y en a 7,5% qui sont à considérer comme des joueurs excessifs, hein, ce qui est quand même énorme.
Et principalement, ça reste des jeunes ou pareil, tout le monde peut être touché par,
alors,
cette addiction ?
Tout le monde peut être touché, mais la consommation de paris sportifs, elle a explosé chez les jeunes. Le profil déjà d'âge moyen, il est de 30 à 35 ans, ce qui est quand même un âge très jeune. Et là, donc, sur la population vraiment adolescente, jeunes adultes, ça a augmenté aussi. Et la pornographie ou les réseaux sociaux, voilà, moi les chiffres que j'ai, c'est qu'avant la crise, il y avait 24% des 18-22 ans qui jouaient aux jeux vidéo plus de 2 heures par jour. Mmh. 26% passaient plus de 5 heures par jour sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même beaucoup. Et 21% des 14-17 ans ont consommé de la pornographie au moins une fois par semaine, dont 9% tous les jours.
D'accord.
Ce qui est quand même énorme. Et l'impact actuellement des réseaux sociaux et de la pornographie chez les jeunes personnes, donc jeunes adolescents ou jeunes adultes, c'est vraiment dramatique. Mmh. C'est dramatique parce que c'est une période, déjà l'adolescence est une période très à risque pour le développement des addictions en général, mais notamment l'addiction à la pornographie, parce qu'il y a plein de choses qui se jouent, qui se remanient autour.
Ça modifie les comportements sexuels, la perception de la sexualité.
La perception de la sexualité et des corps et des rôles aussi masculins et féminins. Et comme toute addiction, enfin, ça c'est peut-être une question que vous allez me poser plus tard, mais je peux déjà commencer à en dire quelques mots. Toutes les addictions, tous les comportements à risque addictif, quoi qu'il en soit, modifient l'activité cérébrale et de fait engendrent un besoin, une pulsion à vouloir toujours consommer plus et à ressentir du manque si jamais on ne consomme pas. Et en fait, ça peut s'installer très vite, même sur des profils qui n'ont pas forcément des facteurs de risque psychopathologiques, ça peut venir s'installer très vite. Et l'adolescence, c'est vraiment la brèche parfaite pour qu'une addiction, quelle qu'elle soit, s'engouffre dedans.
Est-ce qu'il y a des étapes dans un processus d'addiction, justement ?
Oui. La toute première étape, déjà, c'est la rencontre avec le produit. Une rencontre qui est agréable. Si on a une mauvaise expérience, en général, notre logique adaptative,
on n'y retourne pas.
On n'y retourne pas, voilà. Mais si on a aimé ça, ben on va avoir envie d'y retourner. De par des comportements qui nous génèrent du plaisir, neurochimiquement parlant. Mmh. Et donc après, la consommation, elle est à risque de se répéter, tout en étant en contrôle. Voilà. Et c'est un petit peu plus tard qu'on risque de voir des installations de conséquences, voire même de mise en danger, ce qu'on va appeler des usages problématiques, qui ne sont pas forcément des addictions au sens sévère du terme, mais on va commencer à voir que ça prend un peu plus de temps, qu'on a un peu plus de mal à s'en passer, qu'on est un peu irritable si jamais on n'a pas consommé tel produit ou tel comportement, parce que là je mets vraiment dans le même ensemble les consommations de produits et les addictions qu'on appelle comportementales.
Et j'imagine que c'est omniprésent aussi dans la tête, quoi.
Oui, et ça crée effectivement ce qui va être un autre facteur, un petit peu de warning, ça va être les obsessions. Les pensées autour de la consommation et du fait de consommer quand on n'a pas quelque chose sur soi. Et dans le processus addictif, il va y avoir toute une période où en gros ça va bien se passer, ça va être que du plaisir, hein, une sorte de lune de miel un petit peu où tout va bien, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai souvent qu'il n'y a aucun problème. Et si ça s'installe, on va avoir des phases un petit peu où va y avoir l'apparition du manque et comment la personne va gérer plus ou moins bien le manque, comment elle va le supporter, jusqu'à arriver parfois... donc là où on est sur des addictions vraiment sévères, à des phases de désespoir où il y a tellement de conséquences, tellement d'embourbements que la personne, elle en a conscience, elle sait que c'est un problème et elle n'arrive pas à s'en passer.
Et c'est souvent là qu'elle devient agressive aussi.
Agressive, irritable, déprimée, complètement déprimée, voire même voire même penser à des passages à l'acte auto-agressifs graves pour se sortir de cette situation de désespoir. Et c'est souvent dans cette période-là qu'on va avoir les demandes d'aide, en fait, alors que finalement les demandes d'aide, elles devraient arriver. Et j'ai vu beaucoup de jeunes qui ont eu le réflexe extrêmement pertinent et extrêmement sage de le faire sur les deux dernières années. Ça a été de demander de l'aide justement avant qu'il y ait trop de conséquences, parce que justement une petite conséquence de, par exemple, de consommation d'alcool qui était juste de se bagarrer par exemple à chaque soirée, ou d'avoir, enfin j'ai une petite conséquence, c'est pas une petite conséquence mais ou d'avoir par exemple des trous noirs, ça a sollicité chez ces jeunes-là de moins de 25 ans des demandes d'aide, en fait. Et finalement, moi, je les ai beaucoup valorisés là-dessus, parce que c'était pouvoir prendre le problème avant qu'il soit trop embourbé, parce que du coup, on avait une marge de manœuvre qui était beaucoup plus souple, parce qu'on avait moins de front, entre guillemets, à traiter. Et finalement, c'était presque plus facile pour ces jeunes-là, et surtout très, très sages et très matures de leur part d'avoir cette conscience-là.
Et on reviendra d'ailleurs en deuxième partie sur ce processus et sur comment se rendre compte qu'on a un problème ou une addiction. Mais en attendant, Mathilde Auclin, je vous propose de faire une petite pause musicale juste avant de se retrouver pour parler de prévention, de mieux comprendre tout le processus d'addiction, comme je viens de le dire. Donc on va se lancer Sip Alcohol de Joey Boy, et on se retrouve d'ici quelques minutes. Alors n'hésitez pas à rester à l'écoute sur LFM Radio.
Les morceaux les plus chauds du moment sont sur le 95.5.
Sur le
95.5. All of the blessings fall on my yard. Blessings stay for my yard. And like a dad, he go be, he go see, he go feel because the blessings fall on my yard. Blessings fall on my yard. That's why I said my alcohol. I don't want to reason bad things no more. I don't want to go back to where I did before. Make nobody stress me, no disturb me, cha cha cha. I sip my alcohol. I don't want to reason bad things no more.
Et on se retrouve sur LFM Radio 95.5. Vous venez d'écouter Joey Boy, Sip Alcohol. Donc on est toujours dans On en parle, et vous écoutez Manon. Et je suis toujours accompagnée de Mathilde Auclin aujourd'hui. Bonjour Mathilde Auclin.
Bonjour.
Rebonjour. Et c'est un sujet assez spécial que nous abordons dans cette émission aujourd'hui, puisque nous parlons des conséquences des confinements et du Covid sur les comportements addictifs de certains jeunes. Mathilde Auclin, à partir de quel moment on peut estimer qu'un comportement est une addiction ?
Alors, les critères pour déterminer une addiction, ils sont très simples et ils sont énoncés très clairement. Je vais vous citer moi l'une des classifications qu'on utilise en addictologie, qui est celle du DSM, donc du manuel diagnostique et statistique, donc une classification américaine, mais la classification française reprend les critères formulés différemment, mais en très grande partie similaires. C'est que les critères, c'est qu'on va avoir donc une consommation donc d'un comportement ou d'une substance qui va commencer à prendre, je vous la fais très courte, hein, qui prend plus de temps que ce qu'on voudrait, qui va être plus fréquente que ce qu'on voudrait, qui va créer des altérations significatives du fonctionnement, c'est-à-dire que par exemple on va donner moins de place, voire même complètement délaisser ses activités, les choses qu'on aime, ou ses obligations, ses priorités.
La vie de tous les jours.
Exactement. On va avoir donc ce phénomène un phénomène qu'on appelle la science, c'est-à-dire donc le fait de que ça prenne plus de temps, mais aussi que ça prenne de la place dans les pensées, que ça crée presque des obsessions par rapport au fait de consommer, au fait de se procurer, etc. Il va y avoir donc l'apparition de conséquences négatives, et que malgré ces conséquences, la personne elle continue le comportement de consommation. Ça va aussi se caractériser l'addiction par une perte de contrôle. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, trop de temps, trop de fréquence, malgré les conséquences, on continue, etc. Et un phénomène de tolérance et de sevrage sur un temps significatif. C'est-à-dire qu'une addiction, c'est pas parce qu'on a consommé trois fois que c'est forcément... C'est forcément justement une addiction. Il faut qu'il y ait une durée significative. Hein. On commence à partir de 6 mois et puis surtout au bout d'un an de consommation, on peut déjà se poser des questions.
Donc c'est plus dans la durée que sur le nombre de temps.
C'est dans la durée qu'on peut diagnostiquer une addiction. La fréquence ou le fait de consommer, le seul fait de consommer ne suffit pas à caractériser une addiction. C'est là où on revient à ce que je disais tout à l'heure, où on va avoir des consommations à risque ou des consommations excessives, problématiques, donc une sévérité plus ou moins modérée. Voilà. Et puis après, donc, quand on a de la tolérance et du sevrage, c'est-à-dire des symptômes de manque physique et psychologique, hein, de l'irritabilité, le corps qui réclame, entre guillemets, et puis la tolérance, c'est-à-dire j'ai besoin de consommer plus pour ressentir les mêmes effets, ça par contre, ce sont des gros critères d'addiction sévère, et là il faut commencer à vraiment faire des démarches d'en parler, soit à un proche, soit carrément d'aller consulter. Exactement.
Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau exactement quand on est addict à quelque chose?
Alors notre cerveau il est programmé pour éliminer, pour éviter tout ce qui va être désagréable pour nous, déplaisant, et pour vouloir recommencer tout ce qui est plaisant. Donc quand on a un comportement qui nous fait du bien, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit sain ou pas sain, à risque ou pas à risque, le cerveau lui cherche pas à savoir, il enregistre que ça lui plaît, donc manger du chocolat, voir ses amis, regarder du porno ou prendre du cannabis ou de la cocaïne, il regarde pas forcément la qualité de cet objet, il va se dire « Ah bah ça me fait plaisir ». Donc du coup ça hyperactive un circuit qu'on appelle le circuit de la récompense dans le cerveau, qui fonctionne avec une petite partie qui s'appelle le noyau accumbens, hein, pour la partie scientifique, voilà. Et la dopamine, qui est un neurotransmetteur qu'on sécrète déjà ordinairement, va s'hypersécréter, et à un moment donné, ce circuit, il va entre guillemets comme s'enrayer. Comme il va fonctionner en permanence avec la répétition de tous ces comportements, il va à un moment donné en fait élever son seuil de consommation, et justement le manque apparaît quand ce seuil qui s'est surélevé n'est pas rempli. Et normalement, pour réguler ce circuit un petit peu émotionnel, ce circuit de la récompense, on a notre cortex, et notamment notre cortex préfrontal, qui est la partie donc, au niveau du front, qui est la partie la plus développée en fait chez les êtres humains par rapport aux autres animaux, et c'est toute la partie qui est impliquée dans le raisonnement, la prise de décision, le fait de choisir des alternatives, le jugement aussi, donc l'estimation, l'analyse. Et cette partie-là, en fait, pourquoi je disais que l'adolescence était une période extrêmement à risque de développer n'importe quelle addiction, c'est que cette partie-là, elle n'a pas fini d'être formée.
Elle est en développement à l'adolescence.
Exactement, le cerveau, il est fini de se développer vraiment qu'à 25 ans, et encore les consommations précoces ralentissent l'aboutissement de cette maturation. Donc si on a cette partie-là finalement qui est moins solide pour faire son travail, la régulation des envies de consommer beaucoup plus impulsives, beaucoup plus émotionnelles, va pas se faire de la même façon. Et ça, c'est pour la partie vraiment, on va dire, biologique de l'addiction. Mais à tous ces facteurs biologiques, on va rajouter des facteurs psychologiques et environnementaux pour vraiment comprendre comment ça fonctionne une addiction. C'est qu'il y a aussi l'intervention de la personnalité. Voilà, en fonction de l'estime de soi qu'on a, de son caractère, si on est introverti, extraverti. Alors il n'y en a pas forcément un qui détermine plus que l'autre, mais ce sont des facteurs qui jouent et qui ont été prouvés comme étant déterminants. La temporalité, c'est-à-dire à quel moment on est exposé, est-ce qu'on est exposé très tôt ou très tard.
Les personnes avec qui on traîne aussi, j'imagine.
Exactement, ça c'est plutôt les contextes sociaux et environnementaux, donc l'exposition dans la famille ou l'exposition avec les amis, le mode de vie, les événements de vie aussi. On a notamment vu que les traumatismes étaient des facteurs extrêmement puissants de risque dans le fait de développer une addiction. Et puis, voilà, donc tous ces facteurs, finalement, là, ça va faire que c'est pas que la consommation, que le produit qui va générer une addiction, ça va être le premier contexte et tout ce qui va entourer et qui va favoriser, alimenter la fonction de l'addiction, c'est-à-dire pourquoi on va consommer et comment tout ça va s'installer.
On remarque souvent un comportement de déni chez les personnes qui ont des comportements d'addiction. Qu'est-ce qui explique que c'est difficile de se rendre compte qu'on a un problème et qu'on a besoin d'aide ?
Parce que tout simplement, pour tout être humain normalement constitué, avoir un problème, c'est pas agréable et on n'aime pas. Donc avoir un problème, déjà, on n'aime pas. Ne pas avoir la solution, c'est encore pire. Et du coup, le déni...
Et demander de l'aide,
j'imagine. Et demander de l'aide, du coup, c'est encore pire aussi, parce que quelque part, c'est très sain de ne pas vouloir demander de l'aide et vouloir traiter ses problèmes en premier lieu par soi-même. Ça montre des capacités d'indépendance et d'autonomie. Et par contre, au moment où ça ne suffit pas, il faut absolument demander de l'aide à quelqu'un, un proche ou quelqu'un de moins proche. Mais globalement, le déni, c'est une défense, en fait, psychique, qui va être lié à une perception, un constat traumatisant qui risque de faire s'effondrer. Quand on constate qu'on n'est pas capable de gérer une situation, ça peut être extrêmement douloureux à accepter. Et en général, on a envie de conserver une bonne image de la réalité, une bonne image de soi. Donc le déni, c'est un mécanisme qui est très très difficile à comprendre. Enfin, c'est assez opaque comme mécanisme. Mais globalement, ça repose là-dessus. Et tant qu'on n'a pas fait ce travail un petit peu d'acceptation, ça va être très difficile de travailler. Et il faut bien faire la différence entre le déni, qui est vraiment « ça n'existe pas ». Il y a un peu une sorte de pensée magique. Si ça n'existe pas, voilà, si c'est pas perceptible, du coup, à ma conscience, ou que je veux pas le rendre perceptible à ma conscience, ça n'existe pas. Et faut pas confondre ça avec un autre stade dans le processus de changement, notamment en addictologie. C'est pas la même chose que je sais que j'ai un problème, mais je vais pas l'avouer.
Ouais.
Et du coup, je vais rien faire ou je vais essayer de camoufler, de gérer à ma façon tout seul.
Justement, parce que l'addiction est trop forte et qu'on n'a pas envie de la quitter.
C'est pas la même chose que de dire ça n'existe pas. Le déni, c'est ça n'existe pas. Et après, ça existe, mais je vais essayer de gérer tout seul. C'est vraiment l'étape d'après. Et
comment
après, il faut aussi savoir que le frein aux soins, c'est encore quelque chose d'énorme. Aller consulter un psychologue, un médecin, c'est quand même... on a encore un peu du chemin à faire là-dessus. Les addictions, la perception, les préjugés qu'on a encore sur les addictions, ça a la peau dure encore. Et souvent, ce pourquoi il y a beaucoup des freins aux soins psychiques en général, pas qu'addictologiques, c'est qu'il y a de la honte.
L'image qu'on a de tout ça, en fait.
Oui, et puis la peur d'être découvert, la peur de qu'on se croise, la peur... du fait qu'on soit jugé pour des conduites qui sont pas forcément légales, l'idée de penser que ça va coûter cher aussi, alors qu'il y a des structures publiques qui existent aussi, ou des psychologues qui peuvent adapter leurs tarifs, ou qu'il peut y avoir les mutuelles ou la sécurité sociale qui peut rentrer en jeu. Donc il y a plein de freins qui font que accéder à la demande de soins, donc à la demande d'aide par un professionnel, je trouve que ça reste encore assez difficile aujourd'hui.
Comment on fait pour aider une personne qui est justement dans ce déni ? Comment on fait pour l'accompagner à se faire aider ?
Alors déjà, il faut parler. il faut parler, c'est très 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 important. Il faut parler, faire réfléchir, ne pas juger. C'est-à-dire, il faut ne pas faire un tabou de la consommation. Voilà, il ne s'agit pas de faire, quand on est dans une famille, par exemple, ou un proche, un ami, un conjoint ou une conjointe, il faut pas en faire un tabou. Il faut que ça existe, justement. Il faut que ça existe. Il faut essayer de faire réfléchir la personne sur la consommation, ce qu'elle y trouve et ses conséquences. Hein, ne pas forcément dire bah, c'est mal parce que sur les paquets de cigarettes, il y a écrit que fumais-tu, pour autant, il y a quand même énormément de fumeurs. Donc ça ne suffit pas de montrer un petit peu, de montrer que les inconvénients. Il faut aussi comprendre pourquoi la personne, elle consomme. Et il ne faut surtout pas exclure, en fait. Même s'il y a, je sais qu'on reçoit beaucoup de familles parce qu'on a une mission de consultation entourage aussi au XAPA, on reçoit beaucoup de familles d'entourage qui sont épuisées, qui sont très en colère, qui sont très déçues, et on sait que c'est très dur. Mais le rejet, alors a fortiori, le rejet chez un jeune, c'est dramatique.
Pire, ouais.
C'est dramatique parce que l'adolescence, c'est notamment une période où, quelque part, on va avoir à la fois du rejet des autres, mais en même temps, c'est là où on a le plus besoin de sentir qu'on est aimé et qu'on a une place dans un groupe. Et si on exclut, si on rejette, alors là, ça peut être vraiment, vraiment compliqué. Voilà, il faut surtout pas faire comme si de rien n'était, hein, dans les familles.
D'être dans le déni de l'autre côté. Et
exactement. Et à ce moment-là, bah, c'est très important de responsabiliser, c'est-à-dire bah, aussi dire que voilà, la consommation, elle a des conséquences, elle a des impacts. Et quand on veut aller consulter, comme je disais tout à l'heure, la dictologie, les psychologues, ça peut générer des réticences. Déjà, aller consulter son médecin de famille, voilà, son médecin traitant. Bon, même si aujourd'hui, la question des médecins traitants, c'est pas toujours évident d'en avoir. Ou que...
On dirait un professionnel de confiance, du coup.
Exactement. Un professionnel déjà de confiance, un éducateur, un médecin traitant, une assistante sociale, par exemple, ou un infirmier.
Un professeur aussi, peut-être.
Un professeur, exactement, qui peut après orienter. Et après, on peut aller voir un spécialiste. Et ça, c'est valable et pour les personnes qui sont dans une consommation et aussi pour les entourages qui peuvent aller consulter en structure, donc comme je parlais du XAPA, mais aussi en libéral. Hein, tous les professionnels en libéral sont capables d'écouter à minima, même s'ils ne sont pas spécialistes de la question, écouter une inquiétude, une souffrance, être triste, avoir peur. Ça, c'est vraiment la
compétence
de tous les professionnels de santé psychique. Donc il faut vraiment, vraiment pas hésiter. Il ne faut surtout pas qu'on soit entourage ou personne consommatrice. Il ne faut surtout pas rester seul en fait, avec ça.
Mathilde Auclin, l'émission touche déjà à sa fin, mais juste avant, vous allez pouvoir démanteler un cliché, un stéréotype ou une idée reçue grâce à notre rubrique « M'en parle pas ». Donc on se lance le générique et puis on se retrouve tout de suite après. All you stinky dirty tramps, shut the fuck up. All the hoes on his dick, shut the fuck up. Alors du coup, est-ce que vous auriez une idée en tête que vous aimeriez démanteler un petit peu aujourd'hui ?
Alors puisqu'on est sur une émission sur les jeunes, j'aurais envie de dire qu'on a parfois beaucoup le cliché que les jeunes ils sont insouciants, qu'ils en ont parfois pas grand-chose à faire, des choses qui sont un peu trop égoïstes aussi, voilà. Et en fait, bon là, toutes les études que j'ai pu citer et le sujet d'aujourd'hui, ça montre que en fait, les jeunes sont extrêmement soucieux. Les jeunes se font du souci pour eux-mêmes, pour les autres. Hein, le Covid,
l'avenir.
Pour l'avenir. Et puis le Covid, les études sur le Covid ont aussi montré que beaucoup de jeunes se faisaient du souci pour presque pas tant pour leur santé à eux, mais pour la santé de leurs proches. Donc en fait, les jeunes, ils sont pas du tout égoïstes. Hein, quand on voit à quel point les amis, les relations de couple aussi, c'est important quand on est jeune, et ben les jeunes, non, ils sont très au courant des choses, ils se renseignent, ils ont des avis sur l'actualité politique, sociétale, économique aussi. Ils ont plein de connaissances qui sont peut-être différentes. Et les générations évoluent tellement vite aujourd'hui que même moi, ma génération, on est presque un peu décalé par rapport aux générations actuelles. Mais voilà, c'est juste une façon différente de penser, de s'exprimer. Les réseaux sociaux, c'est un support complètement différent, mais bon, finalement, c'est pas très différent de la place publique ou des chats ou des forums qu'on avait avant.
Et puis, ils peuvent se renseigner sur beaucoup de choses. On peut les voir aussi très engagés sur beaucoup de questions sociétales.
Exactement. Alors, pour se renseigner sur des plateformes, alors pour le meilleur et pour le pire, mais effectivement, les jeunes sont quand même extrêmement fins, intelligents, parce qu'ils ont énormément d'idées. Ils sont soucieux, réellement, des choses, et c'est bien souvent pour ça qu'ils sont très impactés justement en termes d'anxiété, de dépression. C'est parce que il y a beaucoup de soucis des fois qui peuvent peser dans leur tête et sur leurs épaules, et donc voilà, les jeunes personnes sont vraiment, on a beaucoup à apprendre des jeunes, et il y a plein d'études en psychologie qui existent sur l'intergénérationnel, c'est-à-dire les liens qui peuvent se tisser extrêmement favorables pour les jeunes avec les adultes, voire même les personnes âgées, et ça montre vraiment que finalement chaque génération peut s'apporter mutuellement pour l'harmonie et le bien commun, clairement.
Et justement, je fais un petit rappel qu'on a nous-mêmes un projet intergénérationnel qui s'appelle Y'a pas d'âge. On en est à la troisième émission et c'est des rencontres entre des petits qui ont entre 6 et 7 ans et des personnes âgées. Donc vous pouvez les réécouter sur le site lfm-radio.com. Cette émission aussi, vous pouvez la réécouter sur lfm-radio.com en rediffusion. En tout cas, merci beaucoup Mathilde Auclin pour votre participation.
Merci beaucoup.
J'espère que vous reviendrez encore à l'avenir. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Comme je le disais, vous pouvez la réécouter en rediffusion sur lfm-radio.com. Moi, je vous retrouve samedi sur Expression Directe et jeudi prochain dans On en parle. En attendant, n'hésitez pas à rester à l'écoute sur LFM Radio parce qu'on s'enchaîne notre playlist juste avant de retrouver Pauline dans le live à 16h30. À très vite.
On en parle.
Tension.
Incompréhension.
Addiction.
Évolution.
Explication. On en parle.
L'émission qui décrypte les phénomènes de société au sein de la jeunesse.
Tous les jeudis de 11h à 11h45.